Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Un État au service d'une société de confiance, c'est l'intitulé du projet de loi adopté avant-hier à l'Assemblée nationale à l'issue du vote solennel des députés. Projet de loi ambitieux si l'on en juge par l'objectif affiché, rien moins que révolutionner les relations entre les administrations et les administrés. Moins de bureaucratie, davantage de souplesse, le texte s'inscrit dans la continuité du choc de simplification administrative engagée sous le précédent quinquennat. Alors, parmi les principales innovations, il y a le droit à l'erreur, autrement dit le droit de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction dès le premier manquement. À charge pour cette dernière, l'administration, de démontrer la mauvaise foi de l'administré. Il s'agit, explique Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, de passer d'une administration de contrôle à une administration de conseil. Au moment d'initier ce grand chantier, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait résumé sa philosophie sur Twitter. « Notre administration, écrivait-il, est une des grandes forces de notre pays, mais elle a trop versé dans l'application tatillonne de la loi, préférant parfois l'extrême rigueur procédurale à l'esprit de la loi. Alors l'administration est-elle trop tatillonne ? Eh bien, c'est la question que nous posons aujourd'hui dans le cadre de notre mini-série consacrée à la réforme de l'État. Je vous rappelle, hier, on s'intéressait au classement de sortie de l'ENA, ce soir donc à l'administration tatillonne, et on le fait alors qu'avait lieu ce jeudi un conseil interministériel pour la transformation publique, à l'issue duquel on a appris qu'il y avait un plan de départ volontaire qui allait être proposé aux fonctionnaires. On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans le courant de cette émission, compagnie donc ce soir de trois invités. Laura Letourneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes haut fonctionnaire, ingénieur du corps des mines, chef de l'unité internet ouvert de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms. Et vous avez publié l'an dernier chez Arbancolin avec Clément Berthollet, Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent. Pour discuter avec vous, Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur associé à Sciences Po, dirigeant de la société de conseil Éclair. Vous avez publié, je ne vais pas tous les citer, le dernier par exemple, Un monde de bidonville. C'était au Seuil il y a quelques semaines de cela. Enfin, coédition Le Seuil et La République des idées. Puis notre troisième invité, Anne Guillovelc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fonctionnaire de l'administration fiscale, mais c'est en tant que syndicaliste que vous intervenez ce soir, parce que vous êtes la porte-parole du syndicat Solidaire Finance Publique. Alors avec vous trois, je voudrais qu'on commence par évoquer cette question du droit à l'erreur. Et c'est vrai que quand on pense droit à l'erreur lorsqu'on est un administré, on pense d'abord à l'erreur qui pourrait être faite lors lorsqu'on remplit sa feuille d'impôt. Anne Guillovelc, est-ce que ce droit à l'erreur, si aujourd'hui il est inscrit dans la loi, est-ce qu'il n'existait pas déjà quand même un peu en pratique, ou bien est-ce que tout administré qui se trompait était forcément sanctionné ?
Alors non, on a plusieurs catégories de contribuables. Celui qui faisait une erreur au moment du remplissage de sa déclaration, bien entendu, il y avait un traitement, on va dire, intelligent de la part des agents de notre administration.
C'est quoi un traitement intelligent ?
C'est un traitement, la personne revenait et faisait part de son erreur et on retraitait la déclaration. Donc il y avait des délais à respecter, bien entendu, mais c'est... On va dire qu'il y a toujours eu de la part des fonctionnaires de notre administration, malgré ce qu'on peut en dire, une certaine mansuétude dans le traitement des contribuables.
Et du coup, comment est-ce que vous voyez le fait d'institutionnaliser un droit à l'erreur ?
Ce qui nous inquiète dans ce droit à l'erreur, on est une administration qui a plusieurs missions, notamment une mission qui fait souvent parler d'elle, c'est la mission du contrôle fiscal. Et quand on évalue la fraude à 60 à 80 milliards d'euros et qu'on lance des plans de mesures différentes pour tenter de lutter contre la fraude et qu'on inscrit parallèlement dans cette loi le droit à l'erreur qui nous demande d'être beaucoup moins intrusif auprès notamment des entreprises avec un délai d'intervention qui sera a priori contraint, on a des inquiétudes sur les modalités du contrôle fiscal dans l'avenir.
C'est-à-dire qu'un droit à l'erreur, ça peut aussi être interprété le cas échéant comme un permis de tricher, Julien Damon ?
Comme vous y allez, là, vous cherchez à voir ce que vous allez faire dans votre déclaration, là.
Non, alors moi, vous savez, je suis extrêmement honnête.
Absolument, tout le monde le sait. Moi, je pense que c'est une bonne mesure que de dire que le droit est devenu si compliqué même s'il y a cette mensuétude de personnes qui sont en charge de l'appliquer, pour reconnaître l'erreur de bonne foi. Parce que je crois que le texte précise bien qu'il s'agit des erreurs de bonne foi qui seront à apprécier d'ailleurs de manière assez discrétionnaire aussi. Est-ce que ça changera beaucoup de choses dans la mensuétude? Est-ce que ceci est une révolution considérable? Je n'en sais pas grand-chose. Alors, ça va porter beaucoup sur le droit fiscal, sur le droit des douanes. Pour ce qui va concerner la santé, l'environnement, il n'y aura pas trop de droit à l'erreur possible. Donc, ce n'est pas un bouleversement considérable. Mais la loi qui est en passe d'être votée, donc, n'est pas en soi un bouleversement total. C'est son orientation qui est globalement sympathique.
Laura Letourneau, vous qui avez réfléchi justement à la façon de réformer l'État et de réformer notamment la façon dont fonctionne l'administration, est-ce que vous considérez que ce droit à l'erreur, ça peut permettre justement à l'administration de mieux fonctionner ou en tout cas d'être mieux perçu par les administrés?
Je pense qu'effectivement... Ça démontre quand même un changement de paradigme, un changement de logique. C'est-à-dire qu'on passe à la confiance par défaut. On n'établit pas un système et un process en fonction des gens potentiellement malveillants, mal intentionnés qui prévoient de tricher. On fait confiance par défaut. En revanche, pour les récidivistes, il y a un système spécial qui fait que derrière, on tape fort. Donc c'est un peu une logique anglo-saxonne finalement.
Il y a presque une inversion de la charge de la preuve, hein. C'est-à-dire que c'est plus à l'administré de faire la preuve qu'il a bien agi de manière tout à fait honnête, mais c'est plutôt à l'administration de faire la preuve qu'éventuellement il aurait été de mauvaise foi.
Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, là encore, ça transcrit à un changement de culture qui, pour Clément Berthollet et moi, dans nos travaux en tout cas, doit aller bien au-delà de ce droit à l'erreur qui a été inscrit dans le texte.
Changement de culture et changement peut-être aussi du coup de pratique de la part de l'administration, Anne Guillovelk.
De pratique, il faut savoir que quand on fait un contrôle fiscal, on peut appliquer des pénalités de mauvaise foi, mais on applique aussi la bonne foi. Donc, et on avait déjà des dispositifs qui permettaient aux contribuables. On fait la distinction entre une anomalie ou une erreur bien involontaire face à une complexité de la loi, parce que là aussi, il y a peut-être besoin de clarifier. Notamment la loi fiscale qui est remplie de niches et de dérogations à droite et à gauche, qui fait que effectivement on peut comprendre que le contribuable soit perdu. Et donc là, c'est pas la responsabilité de l'administration pour le coup, c'est la responsabilité du législateur. Donc dans notre administration, on ne qualifie pas tous les gens qui font des erreurs de fraudeurs. On a vraiment une graduation dans les pénalités, etc. Donc ça existait déjà. Nous, c'est le pendant qui est sorti de ça, c'est de nous limiter nos délais d'intervention. À un moment donné, quand on est dans un système déclaratif, derrière, on doit avoir la possibilité d'avoir un contrôle fait de façon correcte et équitable.
En tout cas, par rapport au changement d'approche que vous évoquiez, Laura Letourneau, c'est une question que je vous pose à tous les trois, elle est motivée de la manière suivante par le ministre Gérald Darmanin pour vendre justement cette idée d'une institutionnalisation du droit à l'erreur. Il dit on veut plus d'une administration qui sanctionne, mais une administration qui conseille et accompagne. Est-ce que là, on est vraiment dans un changement de culture au sein de l'administration française, ou bien est-ce que c'est avant tout des mots qui permettent de vendre une réforme, Julien Damon?
Je pense que ce sont de jolis mots. On ne passera pas de l'un à l'autre, d'abord parce que l'un et l'autre sont déjà présents. C'est ce que vous évoquiez déjà, madame, en matière de droit fiscal. Je pense qu'un point capital, c'est que le droit à l'erreur, dans une certaine mesure, existe déjà. Les fraudeurs, c'est ceux qui... Il y a d'abord la matérialité de la fraude, il y a une erreur, c'est vrai, et c'est l'intention de frauder. Donc le point essentiel, c'est que on va penser qu'il y a davantage de gens de bonne foi. Peut-être que le retour de bâton, c'est qu'il y aura un contentieux qui va être plus dense en la matière. Enfin, sur d'autres voies de simplification, par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut moins de pièces justificatives en matière de droit social, cette fois-ci, pour pouvoir prétendre à des prestations, tout le monde se dit chouette, bah comme ça j'aurai moins de paperasserie, j'aurai une administration moins tatillonne. Mais pour les familles Dalton qui existent, pour les fraudeurs, ce sont des voies formidables pour exercer leur art.
Mais est-ce que vous seriez d'accord les uns les autres pour dire qu'aujourd'hui l'administration sanctionne peut-être davantage qu'elle n'accompagne, Julien Damon?
Alors, j'en vois autour de la table des gens qui disent non, c'est pas vrai. Je pense que d'une certaine mesure, mais c'est mon côté père fouettard, la sanction est une forme d'accompagnement du contribuable et de l'administré. Mais il est exact que tout le monde a le sentiment, confronté à un ordinateur ou à un fonctionnaire, aussi souriant puisse-t-il être, que l'essentiel, c'est de capter la ressource, de sanctionner et pas d'accompagner et d'expliquer. Il a moins de temps pour expliquer que pour sanctionner.
Laura Letourneau ?
Je pense que... Je ne sais pas si le changement est encore effectif et concret, mais en tout cas, il y a certaines administrations ou certaines autorités administratives indépendantes, là je vais parler du cas que je connais de l'ARCEP, qui essaient de faire ce changement de logique. Nous, historiquement, régulateurs des télécoms, on est plutôt dans une logique coercitive de sanctions. Là, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est réguler par la donnée. Donc on n'est pas dans l'accompagnement, c'est encore un autre domaine, mais pour essayer d'expliquer ce à quoi ça correspond. Le but de l'ARCEP sur la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles, par exemple, c'est de faire en sorte que les opérateurs télécoms investissent dans les réseaux. Pour ça, on aimerait créer un choc de la transparence et que l'utilisateur vote avec ses pieds. C'est-à-dire que demain, quand on choisit un abonnement mobile, on ne choisisse pas seulement en fonction du prix, mais on choisisse aussi en fonction de la qualité. C'est-à-dire, moi, j'habite à Bastille, disons. Tous les matins, je prends la ligne 8 et 6 pour aller à Montparnasse. Je vais de temps en temps voir mes parents à Bordeaux, etc. Quel est l'opérateur qui me convient le mieux à moi ? Avec cette info-là, je vais être capable de choisir mon opérateur, l'opérateur qui vient de mieux me couvrir en fonction de mes trajets quotidiens.
Mais cette logique-là, comment est-ce que vous la transposez par rapport à l'administration ? Vous n'êtes pas a priori dans une logique de concurrence aujourd'hui ? C'est-à-dire de devoir choisir entre quel service, quelle administration je vais devoir choisir, ou bien est-ce que vous considérez justement que les administrés, enfin ou peut-être les usagers vont avoir de plus en plus le choix et que c'est aussi à l'administration que d'offrir l'offre la plus compétitive.
C'est-à-dire, je me suis peut-être mal exprimée, mais l'ARCEP, pour remplir sa mission, passe d'une logique de sanction à une logique de régulation par la donnée. Donc en mettant à disposition des consommateurs ces données, on veut que les opérateurs soient mécaniquement investis, incités à investir dans les réseaux.
Ça, j'ai bien compris, mais pas, puisque vous évoquiez, par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet, mm-hmm. les opérateurs, ils sont aussi confrontés à des clients. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que cette logique, finalement, de mise en concurrence et de pas seulement mettre le prix en avant, mais aussi la qualité du service, est-ce que c'est une logique qui doit, pour vous, s'appliquer plus largement à l'administration ? Si j'ai bien lu l'ouvrage que vous avez signé, c'est bien cette logique-là que vous défendez.
Oui.
Non, j'ai l'impression de... Bon, attendez, on va continuer notre tour de table avec Anne Guillauvel, peut-être sur ces questions, en tout cas d'administration, jugée un peu trop tatillonne, peut-être un petit peu un manque de flexibilité, un manque d'accompagnement au profit plutôt d'une logique de sanction. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec déjà ce constat-là ?
Non. Tout simplement parce que... Si je prends le cas de mon administration, à travers différentes missions, et notamment la mission d'accueil, on reçoit un certain nombre de contribuables de façon importante, hein, notamment pendant les campagnes de déclaration ou la sortie des avis d'imposition. Et notre rôle premier, et c'est pour ça qu'il y a un chemin qui doit se tracer, notre rôle premier, c'est d'informer, d'expliquer aux contribuables, et que cette première étape qui est aujourd'hui mise à mal parce qu'on a des services d'accueil qui sont en train de fermer ou auxquels on réduit les horaires d'ouverture, alors on pourra débattre d'autres moyens d'accessibilité à l'administration, mais ce rôle d'information, c'est le premier rôle que doit avoir une administration pour faire comprendre aux gens la loi, les textes, les règlements, et après vient en deuxième partie le contrôle. Hein? Donc si au départ on met à mal ce premier accompagnement par le biais de délivrance de mauvais renseignements parce qu'on n'a pas d'agent technicien, etc., ce qui n'est pas le cas dans notre administration, mais une tendance actuelle avec dans le cadre d'une réduction de la dépense publique fait que on craint que ça soit plus des fonctionnaires de l'administration des finances publiques qui fassent ce service et du coup une perte de technicité et qui pourrait induire en erreur le contribuable. Et donc là, il y a tout un travail pour nous qui est contraire à ce qu'on défend.
Julien Damon.
Moi, je voudrais faire deux remarques. Une sur la fiscalité, qui n'est pas le seul sujet de cette loi, et une deuxième sur le sujet plus général de la confiance. Sur la fiscalité, il y a une autre réforme en cours dont on pense ce qu'on veut par ailleurs, qui est celle du prélèvement à la source. Donc, a priori, ça devrait conduire à avoir moins d'erreurs. Du moins pour les dossiers les plus simples des salariés. Sur le sujet plus général de la confiance, je pense, c'est un constat que tout le monde fait à partir des données qui montrent combien les Français sont défiants à l'égard de l'avenir, à l'égard des uns des autres et à l'égard de l'administration. Donc je trouve que l'objectif de ce type de texte, je pense de ce projet de loi, est avant tout, même s'il a un contenu précis et puis une portée dans bien des domaines, est avant tout psychologique. C'est d'être moins défiant à l'égard des fonctionnaires, des agences, des services administratifs, qui ne sont pas là que pour nous embêter et nous sanctionner, mais pour nous accompagner dans la vie. Donc je pense que l'essence de ces textes est avant tout psychologique.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement un effet inverse, c'est-à-dire à mettre l'accent sur le droit à l'erreur, ça laisse donc entendre que ce droit n'existe peut-être pas véritablement et que donc il y a bien une administration qui est particulièrement tatillonne. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, exact. L'effet pervers, c'est à dire que l'administration est tatillonne et qu'on va faire mieux, le contribuable excédé va dire en plus de ça, vous ne faites pas comme M. Édouard Philippe a dit de le faire. Salaud de fonctionnaire, donc ça ne va pas être terrible. C'est une possibilité d'effet pervers évidente. Mais je crois que l'essentiel tout de même, c'est d'aller vers une transformation en profondeur de la relation entre administré et administrateur, de manière à ce que le niveau de défiance baisse. Alors, ce n'est pas en scandant confiance, 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 comme Europe, 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 qu'on avance. Mais il y a du contenu et de la portée dans l'ensemble des dispositions votées ces temps-ci.
Laura Letourneau, si cette obligation de transformation de l'administration est bien réelle, elle est dictée par quoi, à votre avis? Elle est dictée par des considérations qui peuvent être justement des considérations économiques. Je vais citer un extrait par exemple, de votre livre. Vous écrivez notamment à propos des GAFA, les géants du numérique s'appuient sur les faiblesses et les lenteurs de l'administration, ils vont finir par remplacer l'État. Donc il y aurait quoi? Une obligation pour l'État à se transformer s'il ne veut pas disparaître du fait de la concurrence de ces grandes entreprises du numérique?
C'est exactement ça, oui. J'aime bien une citation de la présidente estonienne. Donc l'Estonie, c'est un modèle d'e-administration dans le monde, qui dit « Sans transformation digitale, les États deviendront obsolètes ». Donc en fait, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire qu'on ne demande pas est-ce qu'on va se rénover ou pas, est-ce qu'on va se transformer, se moderniser. Il y a un sentiment d'urgence. C'est une question de survie. Avec Clément Berthollet, la question qu'il nous avait posée initialement, c'était ubérisation à qui le tour? On a fait un peu le tour des différents secteurs d'activité et on a été frappé par le fait que tout le monde nous disait que tout allait se faire ubériser, sauf son propre secteur, parce qu'il y avait toujours des excuses de barrières statutaires, législatives, etc., qui faisaient que ça ne pouvait pas être le cas. On s'est dit, est-ce que nous, fonctionnaires, on n'est pas victimes du même biais? Est-ce que c'est pas nous qui allons finalement nous faire ubériser? Et dès lors qu'on a eu cette idée en tête, c'est devenu absolument flagrant.
Mais prenons un exemple, par exemple, d'ubérisation à laquelle seraient confrontées certaines administrations. Ça peut être quoi?
Alors, il y en a énormément. Ce qui est intéressant, c'est que l'intégralité des services publics sont menacés, qu'ils soient non marchands, marchands comme l'éducation ou la santé, ou même régaliens. Donc, c'est les plus frappants, typiquement sur la sécurité, sur l'identité. Les exemples classiques, c'est ceux de Facebook avec le safety check, celui qui permet de signaler en ligne qu'on est
en sécurité, par exemple. 13 novembre 2015, ça a beaucoup fonctionné, c'est-à-dire on pouvait signaler à ses proches qu'on était effectivement en sécurité. Ça, c'est quelque chose que l'État devrait pouvoir faire et que l'État a moins bien fait que
finalement,
Facebook.
Finalement, c'est beaucoup plus efficace qu'un numéro vert gouvernemental. Et Facebook, avant d'activer ce service le 13 novembre, a demandé l'autorisation au gouvernement de le faire. Donc, preuve qu'il avait bien conscience qu'il marchait sur les plates-bandes des services publics. Il y a des petits exemples qui paraissent anodins, mais il se trouve que je joue au handball et que j'avais oublié ma carte d'identité lors du premier match de la saison. L'arbitre me l'a demandé pour vérifier que c'était bien moi sur ma licence. Je ne l'avais pas. Il y a quelques années, je n'aurais pas du tout pu jouer. Là, il m'a dit, c'est pas grave, montrez-moi votre profil Facebook. Donc, on ne parle pas forcément d'une mort brutale et soudaine, mais en tout cas d'une obsolescence lente de certains services publics à des degrés de maturité différents.
Je vois que et Julien Damon et Anne Guillauvel ont envie de réagir. Julien Damon.
C'est pas pour organiser la bagarre générale, mais je pense que lorsque vous passez devant un policier, vous lui dites, j'ai pas les papiers, vous lui montrez votre profil Facebook, ça marche pas et ça marchera absolument jamais. Donc il y a des transformations, il y a des transformations en profondeur. Je pense qu'en effet, vous avez dû voir passer plein de gens qui tous vous ont dit tout est ubérisable sauf moi, tout cela avec de très bons arguments. Il y a quelques secteurs d'activité qui ont été complètement transformés par la révolution numérique, la culture, probablement encore plus à venir l'éducation, les disques, etc. Mais certains soutiennent que ça, c'est une toute petite partie du PIB. Alors, j'imagine bien que vous êtes en désaccord avec ce que je suis en train de prononcer là. Mais moi, je vois mal s'effondrer, et on annonce qu'elles vont s'effondrer depuis 10, 20 ans, les caisses de sécurité sociale, l'administration fiscale. Peut-être me trompe-je, mais j'ai le sentiment quand même que...
Mais est-ce que vous ne tenez pas là le discours, Julien Damon, que tenaient les sociétés de taxi, par exemple, et qui n'ont pas vu arriver Uber?
Elles sont toujours là, les sociétés de taxi. Enfin, elles se sont même améliorées. Ce qu'introduit Uber, c'est de la privatisation, de la concurrence généralisée. Et pourquoi pas, de mon petit point de vue. Donc ça, ça peut aller. Mais les sociétés de taxi ne sont pas mortes. Hein. Il y en a même une qui est en deux lettres avec une lettre et un chiffre, qui s'est considérablement améliorée. Donc vive l'ubérisation, ça permet d'améliorer
c'est
les autres services.
Exactement, hein. C'est exactement ce qu'on prône. C'est-à-dire, on espère que cette menace d'ubérisation va permettre de déclencher un regain de performance dans l'État qui va essayer de ce qu'on prône, s'auto-ubériser. Juste, je suis vraiment pas d'accord sur le fait que ce sont des signaux faibles qu'il faut négliger. Facebook Connect, c'est lui qui gère l'identité actuellement.
Non, mais c'est autre chose, Facebook Connect,
non,
que ce que vous évoquez là.
Non, mais c'est un autre
sujet.
Exemple.
Oui, mais allez-y, mais c'est un sujet beaucoup plus important.
Sur le sujet que j'évoquais
Facebook,
là, typiquement, quand vous allez aux États-Unis, que vous devez remplir un formulaire ESTA, maintenant, ils demandent votre nom sur Facebook pour aller faire des vérifications. Donc, je veux dire, on peut prendre ça pour des signaux faibles, mais je pense que ça vaut quand même le coup.
C'est pour ça que vous aurez le visa ou non. C'est l'administration américaine la plus dure.
C'est un début, mais c'est quand même extrêmement choquant.
Je suis pas d'accord, pas du tout. Je pense que c'est des éléments de vérification parce qu'il y a de plus régalien dans la fonction publique américaine.
En tout cas, Anne Guillouvel, est-ce que cette présence d'une concurrence vous lance la santé aujourd'hui? Est-ce que vous la sentez venir? Est-ce qu'elle existe déjà d'ailleurs, peut-être?
On va être clair, jusqu'à présent, enfin, je ne suis pas certaine que la concurrence, l'ouverture au marché, privé, soit apporte le plus aux citoyens. Ça, c'est une discussion, on va dire, plus générale.
Donc, c'est pas forcément une ouverture au marché privé, c'est le privé aussi qui peut investir un certain nombre de missions qui sont remplies aujourd'hui par l'administration.
Oui, mais après, je prends le cas de notre administration, qui, alors, on peut estimer qu'elle a du retard, mais qui a été une des premières administrations qui a ouvert impots.gouv, etc., qui a donné une accessibilité via Internet, etc. Donc, on voit une progression assez importante des télédéclarations, d'utilisation de ce canal-là en termes d'accessibilité. Nous, on n'est pas opposé à ça. Sauf qu'il ne doit pas se substituer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des études, hein, notamment le Crédoc, qui dit que on a quand même une partie de la population qui est en panique vis-à-vis de ces nouveaux outils à leur disposition. Et nous, on dit un canal, autant moderne qu'il soit, ne doit pas se substituer à un accompagnement, on va dire, physique. La relation humaine ne doit pas disparaître au tout numérique. Cependant, le numérique, dans une administration comme la nôtre, elle a toute son utilité. Quand on est, je vais un peu développer par exemple sur la lutte contre la fraude fiscale, quand on a un échange d'informations des données qui est à 50 États, qui va passer à 100, ça veut dire que notre administration va avoir connaissance, va capter normalement un certain nombre de données beaucoup plus importantes. Et là, l'outil informatique doit être au service de la mission. Et le discours ambiant qu'on a tendance à entendre, c'est quand moi j'entends mise en concurrence, c'est dans quel but cette mise en concurrence? Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincue que cette mise en concurrence est une amélioration du service public rendu à l'usager. Mais peut-être que nos analyses vont évoluer. Mais on n'est pas opposé. On a des outils qui sont en train de se développer. Mais ne substituons pas un canal d'accessibilité à un service public à une relation, à un guichet, à une personne qui est derrière le guichet, à une technicité aussi requise.
Laura Letourneau.
Ouais, je pense que je suis complètement d'accord sur le point de vigilance. Je pense que cette transformation vers l'État plateforme, d'une part la dématérialisation et d'autre part la production de services publics innovants, doit permettre au contraire que l'État accompagne encore plus qu'il ne fait aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, un employé BPI, par exemple, au lieu de passer son temps à renumériser des questionnaires qu'il recevrait en papier, il doit pouvoir se libérer du temps pour discuter avec les entrepreneurs sur les cas les plus complexes et aussi pour avoir retrouvé cette mission de proximité et cet humain. Et c'est là, voilà, normalement, tout l'enjeu, quoi. Je suis d'accord qu'il y a un gros point de vigilance sur la fracture numérique. Si de plus en plus de services publics sont dématérialisés, il y a deux aspects.
C'est même plus que de plus en plus. Hein, l'objectif, c'est 100% en tout cas des procédures administratives dématérialisées d'ici 2022.
Voilà. Et l'Estonie, alors je reprends l'Estonie qui a 99% de services publics dématérialisés, insiste sur deux aspects qui sont les aspects primordiaux. L'aspect infrastructure, il faut que les gens aient accès à Internet. Donc ça, ben, c'est le rôle de l'ARCEP, c'est le rôle de la mission très haut débit du gouvernement, etc. Eux, l'Estonie, bon, ils ont un réseau 4G et fibre très développé. En plus, ils ont mis à disposition des citoyens des ordinateurs fixes gratuits avec un accès à Internet. Et il y a le volet qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est le volet formation. Des personnes âgées, pour un facteur social. Là encore, il y a des choses qui sont possibles. L'Estonie forme notamment les personnes âgées à déconnecter leur compte, par exemple, une fois qu'elles ont fini de faire ce qu'il fallait. Donc, il y a des risques, mais clairement, il y a aussi des solutions qu'il faut mettre en œuvre absolument.
Qui dit numérisation et dit numérisation totale des démarches administratives, Julien Damon, ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'accompagnement humain, sauf que peut-être que les signaux alors qu'ils sont donnés, et notamment les signaux qui ont été donnés aujourd'hui, d'avoir un plan de départ volontaire chez les fonctionnaires avec un recours plus important aux contractuels, est-ce que vous y voyez en tout cas une contradiction dans...
Ah. Ça peut s'exprimer de la sorte par un slogan très sécurité sociale. Sécurité sociale qui est une administration d'élite. Je dis ça en souriant, mais c'est ce que je pense profondément. C'est 100% dématérialisé, 100% humanisé la relation. C'est quand même assez étonnant. Parce que, à côté de la dématérialisation qui fait gagner du temps et des sous à tout le monde, en effet, il faut une attention humaine aux situations problématiques. Vous avez cité le Crédoc, le baromètre du numérique que produit le Crédoc, il le fait pour l'ARCEP. Et le chiffre, c'est que vous avez un tiers des gens en France qui vous déclare ne pas pouvoir avoir une relation administrative numérique seule, dont 10% qui vous disent ne l'avoir jamais fait et le craindre vraiment à haut niveau. Ce qui se passe, je pense, le point de vigilance, alors j'aime bien cette expression, c'est le risque de défausse des services publics vers des petits machins administratifs ou associatifs qu'on met en place. Ça s'appelle des PIMS, points information multiservices, des maisons des services publics. C'est plus ou moins bien mis en place localement. Parfois, c'est naturellement extrêmement performant, comme pourront le dire les élus locaux de leurs PIMS et de leurs machins. Dans d'autres coins, ça marche absolument pas. Mais en clair, les situations les plus difficiles, le risque, c'est que on s'en débarrasse pour les pousser vers des petits trucs ad hoc, plus ou moins efficaces, alors que le service public a une fonction universelle de, au moins, explication, prise en charge, accompagnement et sanction.
Il y a peut-être un signe qui peut leur, à l'inverse, rassurer par rapport aux intentions qui sont celles de cette loi qui vient d'être votée. On parle d'un guichet unique. Alors, qui peut déjà m'expliquer en quoi est censé consister ce guichet unique ? Julien Damon,
celui-ci, je ne sais pas, mais je veux bien dire un tout petit mot. Bah, je pense que c'est un formidable projet que d'arriver à faire des guichets uniques. Les prophètes du 2.0 informaticiens ont une autre expression, c'est un point d'entrée unique. Et dans le texte de ce projet de loi, il y a une idée, le référent unique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, point d'entrée unique ? Bah, plus vous êtes dans la mouise, en fait, plus vous avez de contacts possibles avec l'administration. L'idée, c'est que vous ayez un point d'entrée unique pour gérer l'ensemble de vos questions sociales et fiscales. Par le référent unique, c'est exactement ce qui est proposé là, vous allez au CCAS, vous allez à la caisse d'allocation familiale, vous allez voir un département, vous allez voir une association financée par les pouvoirs publics. L'idée est que vous ayez une personne qui soit responsable de l'ensemble de vos démarches administratives. Moi, je pense que c'est une excellente idée.
Dans votre livre, Laura Letourneau, vous en faites justement une suite logique de la transformation de l'État en État plateforme en disant ça se traduit par une logique de guichet unique où le citoyen se connecte et n'a qu'un seul interlocuteur.
Alors c'est toute la logique qui est déjà poussée par la DINSIC depuis des années, avec France Connect, avec mesaides.gouv, qui est un système qui permet de savoir en 5 minutes toutes les aides auxquelles on est, en tant que personne physique, auxquelles on est éligible, sans devoir passer par les différents portails, APL, CAF, etc. Je pense qu'effectivement, tout le monde s'accorde à dire que c'est une très bonne chose et que c'est pas normal que pour faire des papiers, on doive demander un document à la mairie et que c'est à nous d'amener à la préfecture. Et ensuite, voilà, c'est pas à nous de faire de postier, c'est à l'administration de naviguer dans cette complexité administrative à notre place.
Vous en pensez quoi, Anne Guillouvelc ?
Alors, effectivement, je veux dire, simplifier la vie de nos administrés, c'est bien ça qui est recherché, mais je suis pas trop d'accord sur les moyens qu'on y met derrière. Le guichet fiscal, oui, alors ça existe déjà. Nous, par exemple, par rapport au moment de la sortie des avis, il y a le revenu fiscal de référence qui permet notamment pour certains étudiants d'avoir des bourses. Donc, qui est une donnée commune qui soit partagée au sein des administrations, c'est pas stupide, c'est pas stupide et ça doit avoir lieu. La problématique aujourd'hui, c'est de savoir si ces outils numériques, cette digitalisation, elle est au service de qui? Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on arrive à réfléchir de façon, on va dire, collective. Le sens de l'intérêt de l'action publique, c'est le service au sens de l'intérêt général. Donc, ça veut dire une protection, à mon avis, un œil plus protecteur vis-à-vis des publics les plus difficiles. C'est-à-dire quand on dit que le crédoc, c'est ça, c'est que en fait il y a une population qui est alors soit en difficulté parce qu'on a des zones blanches, soit en difficulté parce que matériellement ils savent pas faire. Donc, prenons ce public en charge. Assurons notre service public. Et derrière, parce que les 120 000 suppressions, le plan social là qui est annoncé, derrière, quand le fonctionnaire il a des droits et des devoirs, il a notamment on est soumis à des règles de déontologie et on est soumis à le secret fiscal, etc. Mais notre principe, c'est l'équité de traitement. Et là, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on n'a pas pris la mesure. L'État, dans son ensemble, n'a pas pris la mesure de ces nouveaux outils. Ça fait qu'on le fait de façon contrainte, précipitée, sans réflexion préalable, à une organisation de l'État et au détriment, malheureusement, des plus faibles. Et nous, pour ça, pour l'instant, ce n'est pas acceptable. Pour nous, l'outil, quel que soit l'outil aujourd'hui, l'outil numérique, il doit être au service du progrès social dans son ensemble, au service de l'intérêt général. Et là, aujourd'hui, tel qu'il est construit, tel qu'il a été précipité dans sa réflexion, dans sa mise en œuvre, il amène une partie de la population à être en difficulté.
Julien Lamont.
Bien, vous évoquez le plan social tel qu'il s'annonce. C'est une petite formule qui passe bien, je le conçois, mais c'est donc
un plan de départ volontaire annoncé
aujourd'hui, de plan de départ volontaire. Je conçois bien que les organisations syndicales poussent un petit cri. Elles ont peut-être raison, je ne sais pas. Ce que vous avez évoqué, c'est la capacité de l'État à ingérer la révolution numérique. Pourtant, il fait des efforts. Pourtant, il a réalisé impots.gouv.fr, qui est un formidable site. Alors, j'en fais pas la pub, parce que ça sert à rien d'en faire la pub personnellement. Le site Amélie, qui est le site de l'assurance maladie, est un des plus consistants en termes de nombre de connexions. Le site caf.fr également. On a une idée un peu de ringardise du service public par rapport au numérique, parce qu'évidemment, là, ça fait un peu vieux machin, grosse bureaucratie, par rapport aux jeunes start-up échevelés. Mais depuis très longtemps, les administrations ont innové en matière numérique, en matière informatique, pour gérer les plus grands fichiers que sont les fichiers des prestations sociales, les fichiers de l'assurance maladie, les fichiers de police, les fichiers fiscaux, etc. etc. Moi, je ne trouve pas que l'administration française soit extrêmement en retard. Dans la vie quotidienne, nous avons tous nos agacements. On va nous présenter l'Estonie ou d'autres qui font certainement beaucoup mieux. Mais il y a des services publics qui se sont considérablement améliorés.
Il y a peut-être d'ailleurs un certain nombre d'agacements qui peuvent être aussi à l'encontre d'un certain nombre d'entreprises privées. Ah, on parlait des fournisseurs d'accès à Internet. Alors on a tous, j'imagine, privée, voilà, une expérience de longs délais d'attente et de la difficulté à trouver des réponses particulières lorsqu'elles ne sont pas sur les fameuses foires aux questions sur les sites Internet. Donc il n'y a pas non plus que des bonnes pratiques à trouver du côté du privé, Laura Letourneau.
Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. D'une part, c'est vrai qu'on dresse un tableau un peu très noir de l'État français. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et de succès. C'est vrai aussi qu'il y a énormément de pays du monde qui nous envient notre système éducatif, notre système de santé, même si voilà, il a toutes les faiblesses qu'on lui connaît aussi. On dit que l'État n'arrive pas à se moderniser, les grands groupes ont énormément de mal aussi. Et l'État, pour le coup, c'est un très 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 grand groupe, on est quand même 5 millions d'agents publics. Donc c'est normal. Je pense que le problème, c'est que l'État, pour l'instant, a plus vu le numérique comme une rustine. Donc pour numériser tel fonctionnaire, tel formulaire à la marge, type impôt.gouv, qui est une très bonne initiative. Alors qu'en fait, le numérique, il doit vraiment être vécu comme un changement de culture, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins un outil qu'une culture, c'est moins un savoir-faire qu'un savoir-être.
Ça veut dire quoi, ça? Moins un savoir-faire qu'un savoir-être?
Peut-être pour illustrer cette culture-là avec les mots de Jean-François Zobrist, qui est l'ex-patron de Favi, qui est une PME qui est érigée comme modèle d'entreprise libérée. Et c'est quelqu'un qui a plus de 65 ans, je pense, donc ça montre que c'est pas forcément générationnel. Il dit, par exemple, la confiance rapporte plus que le contrôle. Donc là, on est parfaitement dans l'esprit de cette loi. Il dit, l'avenir se joue sur le terrain. Il dit, le diable se cache dans les cloisons. Et il dit aussi, il faut être dévoué au patron. Il faut pas être dévoué au patron, mais au client. Donc, dans l'État, typiquement, ça voudrait dire, il faut pas être dévoué au ministre, mais au citoyen. Et là, on revient sur la quête de sens et le but final, finalement, de tout fonctionnaire, qui est normalement répondre aux besoins du citoyen et garantir de bien public.
Mais alors, je trouve ça justement très intéressant que vous utilisiez le mot client, même si c'était là une citation. Mais est-ce que ça ne traduit pas ça aussi, c'est-à-dire dans le changement peut-être de culture des relations entre l'administration et ses administrés, c'est-à-dire d'avoir une approche plus client, c'est-à-dire peut-être plus inspirée des méthodes des entreprises privées pour répondre avant tout aux attentes individuelles, Anne Guillaume-Welk?
Alors, moi, le mot client pour un service public ne me convient pas. On a soit des contribuables, soit des usagers. Le client, il y a quand même derrière une économie de marché. Enfin, il y a quelque chose qui nous convient pas.
Sauf que vous avez un certain nombre de contribuables qui vont dire « je paye des impôts, donc je suis en droit d'attendre un certain nombre de services ».
Ils ont le droit et c'est légitime qu'ils demandent, mais on va dire que c'est pas client, c'est qu'ils participent par leur biais de leurs impôts à une action publique qui se traduit par des services publics. Et là, on a tout un débat à faire sur le rôle de l'impôt, mais je pense que c'est pas le moment de l'émission. Mais alors c'est vrai que ça, c'est de la terminologie, hein. Utiliser client ou usager, moi je dirais usager citoyen, parce qu'il y a une prise en charge par le citoyen et de prise de conscience de ce que sont les services publics aujourd'hui. Et puis on a cassé cette relation, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on fait disparaître des services publics de proximité, ou de services de la santé, ou des écoles, c'est bien aujourd'hui, la relation de confiance, elle passe aussi malheureusement par là. Quand on réduit la dépense de façon drastique, comme depuis un certain nombre d'années, les citoyens, les administrés ne voient plus leur service public.
Et est-ce donc que la c'est relation... ce qui crée aussi de la bureaucratie d'ailleurs, c'est-à-dire moins de moyens humains peut-être, et donc du coup ça oblige à aller vers une application peut-être plus stricte des règles.
Ça, je ne vais pas dire plus stricte, mais à une industrialisation du service public.
Julien Hamon.
C'est un vieux sujet que le débat usager-client, il y a des prises de position idéologiques puissantes des deux côtés. Je pense que nous sommes juridiquement des usagers, des assurés sociaux, des administrés, de l'administration pénitentiaire, comme de l'administration fiscale.
Mais nous souhaitons... c'est la pratique.
Ouais, mais nous souhaitons tous être traités comme des clients. La concurrence, en réalité, c'est pas une concurrence économique, c'est une concurrence de qualité de service. Une dernière remarque là-dessus, qui moi m'étonne.
Mais du coup, si nous souhaitons tous être traités comme des clients, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser la relation entre l'administration et l'administré.
La relation de service, oui. Les prestations, il faut distinguer ce qu'est la production du service public et ce qu'est le service. Le service, il doit être... De toute façon, c'est même pas qu'il doit être. Là, en effet, il y a une comparaison, une concurrence systématique. On entre dans un cabinet de je ne sais trop quoi, dans un magasin de je ne sais trop quoi. On entre dans une caisse de sécurité sociale ou dans un bâtiment public. On veut être traité de la même manière, d'ailleurs la plus personnalisée possible. Là, la concurrence est généralisée. Non, le truc qui est étonnant avec la révolution numérique, c'est que nous ne sommes pas des clients de l'Internet. Nous sommes des usagers de l'Internet, users en anglais, et nous sommes clients de certaines entreprises. Et c'est assez marrant d'avoir ce service, qui n'est pas un service public, mais ce service universel qui redonne un peu de la couleur sympathique au mot d'usager.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Oui, c'est déjà fini. Merci Laura Letourneau. Je renvoie à votre Uberisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent. Ouvrage que vous avez publié chez Armand Collin l'an dernier avec Clément Berthollet. Julien Damon, le dernier ouvrage, c'était sur les bidonvilles. Rappelez-moi le titre, je ne l'ai plus sous les yeux.
Un monde de bidonvilles, c'est pas en lien avec le sujet du jour. Hein,
non, bon, pas du tout. Oui, mais bon, il faut toujours vendre ses derniers ouvrages. C'est
oui,
au seuil, il y a la République des
Idées. Il est présent aussi là-bas, enfin bon. Bien.
Et merci à vous, Anne Guillot-Velk. Cette émission, vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec la prise de son Élise Leu.